بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. Donc on est au cinquième chapitre qui concerne les ablutions et les différentes questions rattachées aux ablutions. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. Donc la première question c'est la définition des ablutions et le statut des ablutions. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. Donc le wudu dans la langue arabe ça vient de l'wada'a qui veut dire la beauté, la propreté, le bel aspect. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلين على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. Et dans la religion le wudu c'est d'utiliser l'eau dans les quatre membres, c'est-à-dire le visage, les deux mains, la tête et les deux pieds, d'une façon précise qui a été déterminée dans la religion et de façon à adorer Allah Azza wa Jal. Wa hukmuhu annahu wajibun 'ala al-muhdithi idha arada as-salata wa ma fi hukmiha kat-tawaf wa mass al-mushaf. Et le statut des ablutions c'est qu'elles sont obligatoires à celui qui est muhdith, donc on a déjà expliqué ce que c'est, quand il veut faire la salat ou ce qui est équivalent à la salat, c'est-à-dire comme le tawaf autour de la Kaaba ou le fait de toucher le mushaf, c'est-à-dire le livre qui porte le Coran. Al-mas'alatu thaniya ad-dalil 'ala wujubihi wa 'ala man yajib wa mata yajib. La deuxième question c'est la preuve qui concerne son obligation et quand et pour qui il est obligatoire et quand est-ce que c'est obligatoire. Amma ad-dalil 'ala wujubihi fa qawluhu ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. Donc c'est le verset du Coran dans sourate Al-Ma'ida où Allah dit: Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la salat, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc ce verset, si on le lit comme ça, il peut poser problème, ça c'est une parenthèse, puisque quelqu'un il pourrait se dire, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je me lève pour la salat, je suis obligé de faire le wudu. Puisqu'il dit, quand vous vous levez à salat, même ça voudrait dire, même si j'ai déjà les ablutions. Donc les ulama, ils ont interprété ça de plusieurs façons. Il y en a, ils disent, c'est le cas, mais simplement c'est pas une obligation. C'est-à-dire c'était obligé au début de l'islam de faire les ablutions pour chaque salat, même si on avait déjà ses ablutions. Et après, c'est devenu simplement préférable. Parce que, comme il y a dans un hadith, où un compagnon, il disait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les ablutions pour chaque salat, et qu'ensuite, Allah, il a allégé cette chose. C'est-à-dire que, si tu as déjà tes ablutions, tu peux prier comme ça. Donc, le verset, il est devenu, il est mansour. Ou alors, on peut dire, le verset, il n'est pas vraiment mansour, puisqu'il garde le sens d'être préférable. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire salat, lavez-vous, faites les ablutions, même si vous les avez déjà, c'est quand même préférable, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses ablutions pour chaque salat, même quand il les avait déjà, de façon pour montrer l'istihbab, c'est-à-dire c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose de préférable. Et d'autres ils disent non, en fait, parce que le verset il parle de celui qui est muhdith, c'est-à-dire celui qui a uriné ou qui a dormi, etc. Donc c'est pour ça, c'est vers cette personne-là que ce verset il s'adresse. En tout cas, c'est ça le verset du Coran qui parle, qui est la base dans l'obligation des ablutions. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur wa la sadaqatan min ghulul. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Donc dans ces deux hadiths qui sont dans Muslim où il dit Allah n'accepte pas la salat sans purification, et l'autre hadith qui dit Allah n'accepte pas la salat de celui qui a fait le hadath, donc on a expliqué ce que c'est-à-dire qui a uriné par exemple, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ خِلَافٍ فَثَبَتَتْ بِذَلِكَ مَشْرُوعِيَّةُ الْوُضُوءِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَعِ. Donc il n'y a aucune divergence et il n'y a jamais été ramené d'avis contraire à ça dans l'histoire. Et donc ça montre qu'il est légiféré de faire les ablutions à travers le Coran, la Sunna et le consensus des ulama. وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. Et envers qui c'est obligatoire? C'est obligatoire envers le musulman pubère qui a toute sa tête, l'aqil, lorsqu'il veut faire la salat, ou alors ce qui a le même statut que la salat, c'est-à-dire qui nécessite les ablutions. وَأَمَّا مَتَى يَجِبْ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ أَرَادَ الْإِنسَانُ الْفِعْلَ الَّذِي يَشْتَرِطُ لَهُ الْوُضُوءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِوَقْتٍ كَالطَّوَافِ وَمَسْحِ الْمُصْحَفِ. Et quand est-ce qu'elles sont obligatoires? C'est pendant l'heure de la salat, c'est-à-dire il faut qu'il les fasse au moins avant de faire la salat, ou alors au moment où il veut faire quelque chose qui a le même statut que la salat, comme le tawaf ou le fait de toucher le Coran, même si donc ça c'est pas attaché à un temps précis. Quand que ce soit. المسألة الثالثة في شروطه. Ensuite les conditions. الشروط, les conditions des ablutions. ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. أولا الإسلام والعقل والتمييز فلا يصح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. Donc la première c'est l'islam et la raison et la distinction. التمييز. التمييز c'est pas comme le boulour. C'est avant le boulour. Le boulour c'est quand on est pubère. Et avant le boulour, il y a tamiz. La tamiz, c'est le fait de savoir discerner ce qui était utile, ce qui était nuisible, etc. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, les ablutions, elles ne sont pas valides si elles sont faites par un non-musulman ou par quelqu'un qui n'a pas sa raison. Et elles ne sont pas non plus considérées d'un petit s'il est en dessous de l'âge de tamiz. Donc, l'âge de tamiz, il est différent selon les petits. Généralement, c'est autour de l'âge de 7 ans. C'est à 7 ans que le petit il a de tamiz, il sait différencier ce qui est bon, ce qui est mauvais. والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. Aussi النية, c'est-à-dire le fait d'avoir l'intention de faire ses ablutions. C'est-à-dire que si, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si la personne elle venait à se laver pour se rafraîchir ou à se laver par propreté et que ça correspondait aux membres des ablutions, elle ne pourrait pas faire sa salat parce qu'elle n'a pas eu dans son lavage la niya des ablutions, les ablutions religieuses. Donc conformément au hadith qui dit que les actes ne dépendent que des intentions. Et il n'est pas légiféré de prononcer cette niya puisque ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ma'u al-tahur lima taqaddama fil miyah, amma al-ma'u al-najis fala yasihu al-wudu' bih. Aussi l'eau qui est pure, comme on a déjà expliqué dans le chapitre des eaux. Donc l'eau impure, on ne peut pas faire les ablutions avec. إزالة ما يمنع وصول الماء وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين أو نحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. Aussi le fait d'enlever tout ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre la peau, comme les graisses ou etc. Quelque chose qui pourrait, et comme il dit, comme le vernis à ongles qui est connu maintenant chez les femmes. Donc ça, il faut l'enlever pour que les ablutions soient valables, parce que ça empêche que l'eau elle touche l'endroit qui doit être lavé par les ablutions. الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. Aussi le fait de faire l'istijmar ou l'istinja, c'est-à-dire de nettoyer ses parties intimes avec l'eau ou avec du papier. Mais il dit عند وجود سببهما. Donc contrairement à ce que certaines personnes elles pensent, l'istinja avant salat, c'est seulement si on a été aux toilettes. C'est-à-dire l'istinja, il est rattaché au fait d'aller aux toilettes, pas à la salat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas été aux toilettes, par exemple, ils ont fait dhuhr. Entre dhuhr et asr, ils n'ont pas été aux toilettes. Et quand ils vont faire l'asr, ils croient qu'il faut refaire l'istinja, même s'il n'a pas été aux toilettes. Ça, c'est beaucoup répandu chez les gens, alors que non. L'istinja, il est rattaché au fait d'aller aux toilettes. Donc, et c'est une condition, bien sûr, puisque c'est enlever les impuretés. Aussi, la parenthèse, c'est qu'on ne fait pas l'istinja juste pour quand on lâche un gaz. Comme beaucoup de gens y pensent aussi. Ils pensent qu'il faut refaire l'istinja quand on fait un gaz. Al-mu'alat, donc il va en parler après, c'est le fait de faire les ablutions de façon non coupée. C'est-à-dire que quand tu as fini un membre, tu fais tout de suite celui d'après. Tu ne fais pas la moitié de tes ablutions et par exemple une demi-heure après, le reste de tes ablutions. At-tartib, c'est le fait de faire les membres des ablutions dans l'ordre tel que ça a été rapporté dans les hadiths. غسلوا جميع الأعضاء الواجب غسلها. Et le fait de laver tous les membres, qu'il est obligatoire de laver. Donc après, il y aura un peu plus de détails. Il dit المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه. Donc maintenant, il parle de quelles sont les obligations, c'est-à-dire les membres obligatoires à laver dans le wudu. Il dit وهي ستة. Ils sont au nombre de 6. غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. Il dit donc le fait de laver, premièrement le fait de laver son visage, puisqu'Allah dit dans le Coran, dans le verset qu'on avait cité au début, qui est la base dans le sujet des ablutions, il a dit lavez vos visages. Donc c'est le fait de laver sur tout son visage. Et le visage, donc ici il ne précise pas, c'est-à-dire c'est, ils disent min manbat al-sha'r al-adi, ou al-mu'tad, c'est-à-dire là où les cheveux ils poussent habituellement, ici, jusque en dessous du menton. Et de l'oreille jusqu'à l'oreille. Donc il rentre dedans ce qu'on appelle al-bayad, alladhi bayna al-lihya wa al-udhun. Le blanc qui est entre la barbe et l'oreille, il rentre dans la parole de la grande majorité des ulama, il rentre dans le lavage de la face. Donc il ne faut pas l'oublier. Et aussi la barbe. C'est-à-dire la barbe, il faut passer les mains mouillées dessus, puisqu'il rentre dans le visage. Puisque le visage, c'est la chose par laquelle tu fais face dans la langue arabe. Et donc la barbe, quand tu as une barbe, tu fais face avec ta barbe, tu fais face aux gens. Et il dit, en fait partie, le fait de laver la bouche et le fait de laver son nez. Al-mad-mada et l'istinchaq. Puisque le nez et la bouche font partie du visage. Et donc les différentes preuves, puisque ça c'est une question à divergence, c'est-à-dire l'obligation du lavage de la bouche et du nez, c'est une question à divergence entre les ulama. Et les preuves, elles sont nombreuses pour montrer que c'est obligatoire. Notamment le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand tu fais tes ablutions, lave ta bouche. Ou alors il dit aussi à propos des ablutions, il a dit à un compagnon, tout ça c'est des hadiths authentiques, exagère dans le lavage du nez quand tu fais tes ablutions. Donc ces différents hadiths, et aussi que les hadiths ils n'ont été rapportés que avec le lavage de la bouche et le lavage du nez, ce qui montre qu'ils font partie du lavage du visage. ثانيا غسل اليدين الى المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. Deuxièmement, le fait de laver les mains jusqu'au coude, puisqu'Allah dit dans le Coran et vos mains jusqu'au coude. Et les coudes y rentrent dans le lavage, et ça aussi c'est une question où il y a une divergence entre les ulama, même si elle n'est pas aussi forte que la divergence précédente. Et bien sûr les coudes y rentrent. Pourquoi? Pour différentes raisons, notamment le hadith d'Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari, où il a fait ses ablutions, il a commencé à laver jusqu'à ici, c'est-à-dire au-dessus du coude, et il a dit, j'ai vu le prophète, à la fin des ablutions, il a dit, c'est comme ça que j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faire ses ablutions. Il y a aussi un hadith dans Sunan al-Bayhaqi, qui n'est pas authentique, mais qui renforce tout ça, comme quoi le prophète, il faisait tourner sa main autour de son coude, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses ablutions. Et aussi parce que, en fait, le mot « ila », qui est une préposition, qui veut dire jusqu'à, donc quand il dit les mains jusqu'au coude, si ce qu'il y a après ila, il est du même genre que ce qu'il y a avant ila, il rentre dans le sujet. C'est-à-dire si par exemple, et s'il est pas, il rentre pas dans ce qu'il y a avant, il sera accepté. Comme quand Allah dit dans le Coran par exemple, wa atimmu siyam ila al-layl, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. La nuit, elle va pas rentrer dans le jeûne. Pourquoi? Parce que la nuit est différente du jour. Donc la nuit jusque le jour, faites le jeûne le jour jusqu'à la nuit. Donc ça veut bien dire que la nuit, elle ne va pas rentrer dans le jeûne, puisque la nuit et le jour sont deux choses différentes. Mais là, ce n'est pas le cas. Puisque quand il dit lavez vos mains jusqu'au coude, dans la langue arabe, la main, ça part de l'extrémité du doigt majeur jusqu'à l'épaule. Donc tout ça, c'est la main dans la langue arabe. Donc s'il dit la main jusqu'au coude, donc le coude, il rentre dans la main. Donc il sera compris dans le lavage. Ou alors parce que d'autres ulama ils disent ila ici c'est dans le sens de ma'a, hein, comme c'est présent dans certains versets du Coran, comme quand Isa il a dit man ansari ila Allah, qui sont mes alliés avec Allah. En fait c'est l'équivalent de ma'a Allah. Donc en tout cas c'est une question claire qui montre que il faut laver les coudes avec les mains. Ensuite il dit thalithan mashu ar-ra'si kullihi ma'a al-udhunayn liqawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. Il dit le fait de la troisième, c'est d'essuyer sa tête tout entière avec les deux oreilles, puisqu'Allah dit et essuyez vos têtes. Et le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit les oreilles font partie de la tête. Ce hadith il est dans le Sunan de Tirmidhi et d'Ibn Majah, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire elles sont avec la tête dans le jugement et dans la façon de les purifier dans les ablutions. Après, quand il dit, il est obligatoire d'essuyer la tête tout entière, et ça n'est pas valide si tu fais qu'une partie de la tête. Donc ça, en vérité, c'est un avis seulement qu'ils ont choisi. c'est pas une question à consensus. En fait, ça c'est une question où il y a une grande divergence entre les ulama. Est-ce que tu peux te suffire d'essuyer une partie de ta tête, ou est-ce qu'il est obligatoire d'essuyer toute ta tête? Ce qui est sûr, c'est que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils montrent à aucun moment le prophète il a essuyé une seule partie de sa tête. Si ce n'est qu'à hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba dans Sahih al-Bukhari qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait an-nasiya, c'est-à-dire le devant de la tête et le turban. Donc est-ce que ça veut dire il a essuyé an-nasiya et le turban en même temps, donc le turban là il remplace le reste de la tête, ou est-ce que ça veut dire des fois il essuyait an-nasiya et des fois il essuyait le turban? Et si on revient au athar des compagnons, donc ce qui nous aide à comprendre mieux la sunna, on trouve deux parmi les compagnons du prophète avec des chaînes authentiques, c'est dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba rahimahullah, et c'est Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma et Salamat ibn al-Aqwa, donc deux des compagnons du prophète, sans que un seul des compagnons les contredise, ils essuyaient ou ils ont essuyé, c'est-à-dire dans les ablutions, ils se sont contentés d'essuyer an-nasiya. C'est an-nasiya, c'est-à-dire ici le devant de la tête. Ils ont essuyé que ça pendant leurs ablutions. Donc quand on voit des ulama, ils divergent d'une grande divergence, et qu'on voit que les compagnons, un compagnon ou deux compagnons ou des compagnons, ils ont fait ce qui correspond à une des deux opinions, sans qu'aucun compagnon ne les contredise, pour quelle opinion on va pencher? Pour celle qui correspond à ce qu'ils ont fait les compagnons du prophète. Surtout qu'il n'y a pas un hadith qui dit qu'il est interdit ou qu'il n'est pas valide d'essuyer qu'une partie de la tête. Donc le fait d'essuyer juste le devant de la tête, c'est valide. Ça, c'est valide dans les ablutions. Et le mieux, la sunna, c'est de l'essuyer tout entière. Ensuite, il dit « Raslu rizlayni ila al-ka'bayn li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila al-ka'bayn ». Quatrièmement, il dit le fait d'essuyer les pieds jusqu'au, le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles, comme c'est écrit dans le verset du Coran.
Khamisan at-tartib li anna Allah ta'ala dhakarahu murattaban wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam murattaban ala hasabi ma dhakara Allah subhanahu al-wajhu fal-yadayn fal-ra's fal-rijlayn kama warada dhalika fi sifati wudu'ihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Abdullah ibn Zayd wa ghayrihi. Aussi at-tartib, c'est-à-dire l'ordre entre les différents membres qui sont lavés dans les ablutions, puisqu'il n'a pas été rapporté une seule fois du prophète qu'il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, ses ablutions, si ce n'est dans l'ordre qui est connu, c'est-à-dire d'abord la tête, ensuite les mains, ensuite d'abord le visage, ensuite les mains jusqu'au coude, après il essuie ses cheveux et après il lave ses pieds. Donc ça aussi c'est une question où il y a une grande divergence, mais les preuves elles sont assez fortes dans le fait de dire que c'est obligatoire de les laver dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a été rapporté ni du prophète ni d'un compagnon d'avoir lavé ses membres dans ses ablutions, si ce n'est dans ce sens-là. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une action qui n'est pas conforme à notre religion, son action est renvoyée. Donc celui qui ferait ses ablutions à l'envers, on pourrait dire que c'est une action qui n'est pas conforme à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit comme ça a été rapporté dans les hadiths d'Abdullah ibn Zayd et les autres hadiths. Donc il y a plusieurs grands hadiths qui sont les bases dans la description des hadiths, dans la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith premièrement d'Abdullah ibn Zayd, et le hadith de Ali, et le hadith d'Ibn Abbas, et le hadith de Uthman. Donc ça vous les trouvez, notamment le hadith de Uthman, hadith d'Abdullah ibn Zayd et Ibn Abbas, vous le trouvez dans Sahih al-Bukhari. Donc comme il y a une traduction de Sahih al-Bukhari, celui qui veut les lire en détail, il peut retourner à la traduction. Sadisan al-Mu'alat. La sixième c'est al-Mu'alat, il dit بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. Donc c'est le fait que tu laves le membre d'après tout de suite, sans t'arrêter, sans retarder. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. Parce que c'est comme ça que le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait ses ablutions, il les coupait pas. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. Ça c'est un hadith qui est dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans les Sunan d'Abi Daoud, authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah, où un compagnon il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu un homme qui priait et il avait dans son pied l'équivalent d'une pièce, c'est-à-dire une petite surface que l'eau n'avait pas touchée, et il lui a ordonné de refaire l'eau d'eau et de refaire salat. Donc s'il suffisait, si al-mu'alat n'était pas obligatoire, il lui aurait dit prends de l'eau et mets-le sur cet endroit seulement pour compléter tes ablutions. Mais comme il y a un temps qui est passé depuis qu'il a fait ses ablutions, il fallait tout refaire. Ce qui montre qu'il faut faire tes ablutions en une seule fois. Mais, bien sûr, c'est-à-dire, des fois les ablutions elles peuvent être coupées, et c'est là que les ulama ils discutent. Quelle est la chose qui est considérée comme coupant les ablutions? Et il n'y a rien dans les hadiths qui le montre clairement. Donc ils disent c'est le fait de faire quelque chose qui n'a pas de rapport avec tes ablutions, par exemple. Donc ils disent si quelqu'un, par exemple, il faisait ses ablutions, et arrivé au lavage de sa main, il n'a plus d'eau. Et il va chercher de l'eau, et ça va lui prendre un quart d'heure. Et il trouve l'eau, parce que, ou alors il va chercher de l'eau, elle est un peu loin. Donc quand il a l'eau auprès de lui, eh ben il recommence où? Il recommence à sa tête. Parce qu'il n'a pas été occupé par quelque chose qui est extérieur à ses ablutions. Ou alors ils disent aussi, si le temps il a été court, comme par exemple ça a été rapporté, ça c'est dans le Muwatta de l'imam Malik, que Abdallah ibn Omar, il a fait ses ablutions, sauf ses pieds. Après il a marché un petit peu vers la mosquée, et arrivé à la mosquée il a essuyé ses chaussons. Mais pourquoi? Parce que le temps il était court. Il n'a pas laissé une demi-heure entre ses ablutions et ses pieds. Donc ce genre de coupure qui est relativement faible, de courte durée, ou alors qu'il y a une raison valable, c'est-à-dire qu'il y a une raison qui est rattachée à tes ablutions, ça coupe pas tes ablutions, ça coupe pas al-mu'alat. Aussi quelqu'un il pourrait se demander comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a fait pour savoir qu'il y avait un endroit de l'équivalent d'une pièce qui n'avait pas été lavée. Parce que quelqu'un qui va faire l'eau d'eau, il va marcher, l'eau ça y est, elle part, ou les gouttes d'eau elles coulent sur lui, et donc on les voit plus. Donc il y a pas, comment on peut faire pour voir? Donc les explications de hadith, elles nous disent une raison qui est en fait qui est assez logique, c'est que beaucoup des compagnons du prophète, et surtout les gens de Médine, ils travaillaient dans la terre et dans les champs. Donc leurs pieds étaient remplis de terre et de sable, etc. Donc quand ils faisaient les ablutions, ça enlève tout. Parce qu'on voit la terre comment ça fait, quand elle s'accroche à ton pied, tu passes l'autre, ça passe. Et donc il y a, c'est comme s'il a vu une partie où la terre elle était encore incrustée au pied. Donc il a su à partir de là que l'eau elle n'avait pas touché cette partie, sinon ça aurait fait enlever la terre. Ensuite il dit فَلَوْ لَمْ تَكُنْ أَلْمُوَالَاتُ شَرْطًا لِأَمَرَهُ بِغَسْلِ مَا فَاتَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ كُلِّهِ. Donc comme je vous ai dit, وَالْلُمْعَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الْمَا فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَ سُنَنُهُ. Donc la cinquième question, c'est les actes préférables à faire, à sunan, dans les ablutions. C'est-à-dire que celui qui fait ses ablutions telles qu'on l'a décrit jusqu'à maintenant, ses ablutions elles sont valables. Il n'a pas besoin de rajouter. هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. Donc il dit différents actes qui sont préférables à faire et qui méritent une récompense, et s'il les délaisse, il n'y a pas de mal. وهي أولا التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Premièrement, c'est التسمية, le fait de dire Bismillah au début des ablutions, conformément au hadith qui dit « Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah au début. » qui ne mentionne pas le nom d'Allah sur ses ablutions. Donc quelqu'un il pourrait dire, donc ce hadith il est dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans différents livres de hadith, et les ulama ils ont beaucoup divergé sur ce hadith. Beaucoup des ulama des premiers muhadithines ils disent que c'est un hadith qui est faux. Et des ulama un peu plus retardés dans le temps, qui sont venus après, ils ont étudié ces différentes chaînes, ils ont dit, vis-à-vis de ces différentes chaînes de transmission, on peut dire qu'il est Hassan. C'est-à-dire, il est acceptable, il est authentique. Donc, quelqu'un, il pourrait me dire, s'il est authentique, parce que le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah. Ce genre de parole, ça n'indique pas quelque chose de préférable. Ça indique quoi? Ça indique quelque chose qui est une condition et qui est obligatoire. Puisqu'il a dit, il n'y a pas d'ablution. Donc pourquoi les ulama ils disent seulement que c'est une sunna? Pourquoi ils disent pas que c'est obligatoire? Ben c'est justement à cause de la grande discussion qu'il y a eu autour de l'authenticité de ce hadith. Donc peu de ulama ont pris ce hadith texto, c'est-à-dire tel quel, et ont dit qu'il est une condition. Et ceux dont il a été rapporté ça, notamment Ishaq ibn Rahawi, le compagnon de l'imam Ahmed, qui dit que celui qui oublie de dire al-basmala pendant ses ablutions elles sont fausses. Elles sont pas valides. Puisque pour lui, le hadith est authentique, donc il l'a pris tel quel. Mais la plupart des ulama, la grande majorité des ulama, ils disent que le fait de ne pas dire la basmala, ça n'annule pas les ablutions. Et donc ceux-là, ils divergent. Est-ce qu'il faut la dire quand même? C'est-à-dire, est-ce que c'est préférable ou pas? Donc ceux qui disent que le hadith, il n'est pas authentique du tout, ils disent que c'est même pas préférable. Et les autres, ils vont dire c'est préférable puisque le hadith, il a beaucoup de chaînes de transmission, etc. Donc la parole la plus modérée, la plus simple, la plus juste, c'est de dire que c'est préférable de dire bismillah. Thaniyan as-siwak li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. La deuxième chose, c'est siwak. Siwak, on avait expliqué, c'est le fait de se nettoyer la bouche, c'est-à-dire la langue, les gencives et les dents avec quelque objet que ce soit. Et même avec ça peut être avec les doigts, comme on l'avait expliqué. C'est-à-dire ce que la personne elle trouve, conformément au hadith qui dit si je ne craignais d'alourdir, d'imposer quelque chose de trop lourd à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak avec chaque ablution. Thalithan, raslul kaffayni thalathan fi awwalil wudu, li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam dhalik, idh kana yaghsilu kaffayhi thalathan kama warada fi sifati wudu'ihi. Le fait de laver trois fois les mains jusqu'au poignet avant de commencer les ablutions, comme ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Rabi'an, al-mubalaghatu fi al-madmadati wa al-istinshaq li ghayri as-sa'im faqad warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alayhi wa sallam famadmada wa istanthara wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima. Aussi le fait d'exagérer dans le lavage de la bouche et du nez, c'est-à-dire de bien faire pénétrer l'eau jusqu'au bout, sauf pour celui qui jeûne, puisque dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon, exagère dans le lavage du nez, sauf si tu jeûnes. Parce que si il jeûne, on craint que l'eau elle tombe dans sa gorge et que ça annule son jeûne. Ça, c'est un hadith qui est dans les Sunan d'Abi Daoud et authentifié par Sheikh al-Albani. Khamisan ad-dalk wa takhlilu al-lihyati al-kathifati bil-ma'i hatta yudkhila al-ma'a fi dakhiliha. لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. Aussi le fait الدلك. الدلك c'est le fait de frotter, c'est-à-dire que tu te contentes pas simplement que l'eau elle passe partout, mais aussi tu frottes avec ta main. Donc ça c'est aussi préférable, comme ça a été rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd qui a dit il a fait ses ablutions et il lavait, il frottait ses avant-bras. Et aussi le fait de faire un tahlil dans la barbe. Tahlil, c'est le fait de faire pénétrer l'eau dans la barbe avec les doigts. Donc, à l'intérieur de la barbe. Alors que ce qui est obligatoire, c'est simplement de laver ce qui est apparent de la barbe. Donc, comme ça a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sadisan, taqdimu al-yumna ala al-yusra fil yadayn wa al-rijlayn. Aussi le fait de commencer par la droite, dans les mains et dans les pieds. Li fi'lihi, sallallahu alayhi wa sallam. فإنه كان يحب التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Comme dans le hadith de Aïcha رضي الله عنها, qui est dans les Sahih, où elle a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, il aimait commencer par la droite, quand il mettait ses sandales, quand il peignait ses cheveux, et aussi dans ses ablutions, et dans toutes ses affaires. سابعا تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب مرة واحدة. ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. Donc le fait de laver trois fois son visage, ses mains et ses pieds, et ce qui est obligatoire c'est une fois, puisque le prophète صلى الله عليه وسلم il a été rapporté de lui, comme dans le hadith d'Ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari, qu'il a fait ses ablutions en lavant ses membres une seule fois, et ça a été rapporté aussi de lui deux fois, et dans le hadith de Uthman trois fois. Donc le tout il a été ramené du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qui est important c'est de ne pas rajouter une quatrième en pensant que c'est du bien ou que c'est une sunna, puisque dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ses ablutions, à la fin il a dit man zada ala hadha faqad ta'adda wa zalam, celui qui rajoute à ça il a dépassé et il a été injuste. Donc il ne faut pas rajouter une quatrième fois et ce serait une bid'a, une innovation. Faminan الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم. Donc avant ça déjà il a bien dit c'est dans le visage, les mains et les pieds, c'est-à-dire que la tête il n'est pas une sunna de l'essuyer trois fois, même si l'imam Shafi'i rahimahullah parmi les ulama et les imams il dit que comme le reste des membres on peut l'essuyer trois fois. Quelle est sa preuve? c'est le, les hadiths en général qui disent le prophète a fait ses ablutions thalathan thalathan, trois fois trois fois. Donc ils disent il a pas dit sauf la tête. Et aussi parce que il y a un hadith de, dans une des versions du hadith de Uthman qui est dans les Sunan d'Abi Daoud, il a dit qu'il a, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a essuyé sa tête trois fois. Mais la grande majorité des gens du hadith ils disent ça c'est une riwaya shadda, c'est-à-dire c'est une version du hadith qui est qui contredit le rapport qu'en ont fait tous les autres rapporteurs de ce hadith. Ça c'est ce qu'on appelle ash-shadd. Quand quelqu'un de confiance, un rapporteur de confiance, il dit une version d'un hadith qui contredit des gens qui sont plus nombreux ou plus de confiance que lui, ou plus sûrs que lui. On appelle ça shadd. Donc les ulama du hadith, ils l'ont qualifié de shadd, ce hadith. Donc la majorité, à part l'imam Shafi'i, ils disent que, comme ça a été mentionné dans tous les hadiths qui parlent des ablutions, que l'essuage de la tête se fait qu'une fois, c'est tout.
ثامنا الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ pardon, فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
Et aussi le fait de faire الذكر après les ablutions, puisque le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit dans le hadith qui est dans Sahih Muslim: il n'y a pas un d'entre vous qui fait ses ablutions et qui les complète, c'est-à-dire qui les fait de façon complète, et ensuite qui dit je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul, sans associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, sans que les huit portes du paradis ne lui soient ouvertes, et il y entrera par laquelle il veut, par laquelle de ces huit portes. Et il y a aussi le rajout, on peut le citer ici, de dans Sunan al-Tirmidhi, il dit aussi à la fin en plus Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, c'est-à-dire oh Allah, mets-moi parmi ceux qui se repentent beaucoup et qui se purifient. Et Sheikh al-Albani il a authentifié ce rajout qui est dans Sunan al-Tirmidhi. On pourrait rajouter aussi parmi les Sunan, selon l'avis d'une grande partie des ulama, le fait de rajouter, de laver au-dessus de la cheville, au-dessus du coude. Ça n'a pas ce qu'on appelle italatul ghurra, c'est-à-dire le fait de laver au-dessus du coude et aussi le fait de laver au-dessus de la cheville. C'est-à-dire pas jusqu'à la cuisse, mais par exemple jusqu'à la moitié du mollet ou alors jusqu'à à peu près la moitié de l'adout, entre l'épaule et le coude. Ça c'est l'avis de beaucoup de ulama parmi les imams de Salaf. Et il y a des preuves très fortes, notamment le fait que Abu Huraira radiallahu anhu l'a fait. Et sur dit, ça c'est une interprétation d'Abu Huraira. C'est contredit par le fait que Abdullah ibn Omar radiallahu anhu lui aussi l'a fait. Donc ça a été rapporté de deux des compagnons du prophète. Donc c'est pas quelque chose qu'il faisait toujours, mais de temps en temps. Et Abu Huraira, il l'avait compris du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait Inna ummati ya'tuna yawm al-qiyama ghurran muhajjalin min athari al-wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. C'est-à-dire ma communauté viendra avec de la lumière à leur tête et à leurs membres au jour du jugement. Et Abu Huraira il disait donc celui qui peut rajouter à sa lumière, allonger les traces de sa lumière, qu'il le fasse. Et donc Abu Huraira il le faisait dans ses bras et dans ses mains, et aussi Abdullah ibn Omar. Donc c'est quand même deux compagnons du prophète sans qu'aucun des compagnons ne les contredise. Donc comme je vous avais déjà expliqué, ça c'est la condition pour qu'un acte des compagnons du prophète y soit une preuve dans le fiqh, c'est qu'il le fasse, bien sûr que ce soit authentique, que ça ne contredise pas un hadith, et qu'il n'y ait pas un compagnon qui le contredise. Si un compagnon il le contredit, donc là c'est une divergence. Mais si un compagnon il fait quelque chose, et les autres ils se taisent, c'est considéré comme un ijma', puisque les compagnons ils étaient les premiers à répliquer quand ils voyaient quelque chose pour lequel ils n'étaient pas d'accord. Comme il y a beaucoup d'histoires qui ont été rapportées à ce sujet. Ensuite il dit « Al-mas al-sadisa fi nawaqidihi ». La sixième question, c'est de savoir qu'est-ce qui annule les ablutions. والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. وهي ستة أولا الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط. Donc la première, c'est ce qui sort des deux السبيلين, entre guillemets les deux chemins, c'est-à-dire le chemin de l'urine et le chemin des excréments. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا. Donc ce qui sort, ça peut être de l'urine, des excréments, ou le mani, c'est-à-dire le sperme, ou le madi, l'autre liquide qui sort du sexe de l'homme, ou alors le sang de l'istihada pour la femme, ou alors un gaz. لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ. Comme c'est dans le verset qu'on avait cité, quand Allah dit « Si l'un d'entre vous vient des toilettes ». وَقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ. Et aussi le hadith qu'on avait lu au début, Allah n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous. إِذَا أَحْدَثَ, quand il a fait un hadith, donc tout ça rentre dans l'ahdath, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et aussi l'autre hadith, quand il dit وَقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. Le hadith de Nawas ibn Sam'an, quand il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonnait d'essuyer nos chaussons pendant le voyage, pendant 3 jours et 3 nuits, sauf si on était en janaba. C'est-à-dire, si on était en janaba, il fallait laver les pieds. Et il dit وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. Mais il nous l'ordonnait si, à part, si on avait fait nos excréments, ou on avait uriné, ou on avait dormi. وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Et aussi la parole du prophète pour celui qui doute est-ce qu'il a lâché un gaz ou pas, il lui a dit qu'il ne quitte pas la prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou qu'il sente une odeur. Ça c'est dans Bukhari et Muslim, qui prouve que le fait de lâcher un gaz, donc ça annule les ablutions. ثانيا خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة وإن كان غيرهما كالدم والقي فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوض وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. Le fait, la sortie de l'impureté du reste du corps, même si ça sort pas par les orifices. Donc si c'est de l'urine et des excréments, donc c'est conformément à ce qu'on a dit auparavant, si elle sortait par exemple d'une blessure. Et si c'est autre que l'urine et les excréments, comme le sang ou le vomi, alors si c'est en grande quantité, ils disent le mieux, c'est de faire les ablutions. Amalan bil ahwad, c'est-à-dire c'est plus sûr, puisque beaucoup de ulama, ils disent ça. Et surtout pour le sang en vérité c'est une question, il n'y a pas de divergence entre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi si le sang il sort en grande quantité, il faut que la personne elle refasse ses ablutions. C'est-à-dire ça annule ses ablutions, et en plus c'est une najasa aussi. Et si c'est en petite quantité, alors sans divergence entre les ulama, il ne refait pas ses ablutions. Ça ne lui est pas obligatoire, ni le vomi, ni le sang. Ça, conformément à beaucoup de hadiths notamment, et des athar, comme quoi certains compagnons, ils saignaient un peu du nez, et ils ne refaisaient pas ses ablutions, par exemple, si c'était qu'un petit peu de, comme une griffe, etc. Alors que s'ils saignaient beaucoup du nez, ils partaient, ils refaisaient ses ablutions. ثالثا زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. La troisième, c'est le fait de perdre la raison, soit en tombant dans les pommes, ou soit par le sommeil. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. Conformément au hadith que je vous ai expliqué, quand le compagnon il disait, quand on était en voyage, le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous disait d'essuyer nos chaussettes, si on avait uriné, ou fait nos excréments, ou dormi. Donc il a cité le fait de dormir parmi les causes qui annulent les ablutions, comme l'urine et les excréments. وَقَوْلِهِ العين وكاء السه فمن نام فليتوضا. Et le hadith du prophète qui dit l'œil est ce qui attache le c'est-à-dire le derrière de l'être humain. C'est-à-dire il a comparé l'œil à la chose par laquelle tu attaches la peau que tu mets pour couvrir un récipient. C'est-à-dire si tu l'enlèves, le récipient il est ouvert. Donc il dit l'œil c'est comme ça pour le derrière, c'est-à-dire si tu dors, tu sais pas si tu lâches des gaz ou pas. Donc il dit donc celui qui dort qu'il fasse ses ablutions. Ça c'est un hadith qui est dans Sunan d'Abi Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc le fait al-junun, c'est-à-dire le fait d'être fou ou alors d'être possédé par un djinn au point que c'est lui qui prend complètement la personnalité de la personne, donc la personne elle est plus là, en tout cas c'est ça al-junun, ça veut dire qu'il perd sa raison et perd son esprit. Ou alors l'irma. L'irma, c'est le fait de tomber dans les pommes. Ou alors le fait d'être saoul à cause de l'alcool ou de la drogue. Ça annule les ablutions sans divergence entre les ulama. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون ويصلون ولا يتوضأون. Donc il dit le sommeil qui annule les ablutions, c'est le sommeil assez profond avec lequel on perd connaissance. C'est-à-dire, comme il nous avait expliqué un prof, si par exemple, des fois tu as du sommeil, par exemple quelqu'un qui est en classe, il tient son stylo. Des fois il va dormir, mais il tient toujours son stylo. Si son stylo il tombe, il le sent qu'il son stylo il est tombé de sa main et ça va le réveiller. Donc ça, c'est un sommeil. Si un gaz il sort de lui, ça aussi ça va le réveiller, il le sait. Et puis t'as l'autre sommeil, ça c'est nom al mustagriq. C'est-à-dire la personne elle fait ça, et même si son stylo il tombe, il sent plus rien. Ou alors tu lui parles, il sent plus. Donc de la même façon, s'il lâche un gaz, il sent plus. Parce qu'en fait, ce qui est voulu dans le sommeil, c'est que le sommeil c'est pas un hadith en lui-même. Le sommeil il fait refaire les ablutions, puisque c'est une cause pour que tu lâches un hadith, sans que tu t'en rendes compte. Donc de là, on différencie entre les deux sortes de sommeil. Alors, dans le sommeil, il y a beaucoup de paroles de ulama, mais la parole la plus modérée, la plus juste, la plus logique, et qui regroupe entre tous les textes, c'est de dire le sommeil lourd, où tu sais plus ce que tu fais, ça annule les ablutions, et le sommeil, conformément au hadith qu'on a déjà lu, et le sommeil léger, où si tu lâchais quelque chose, tu le sentirais, ça n'annule pas les ablutions, puisque les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, ils dormaient dans la mosquée jusqu'à ce que leur tête elle tombait, et après ils se levaient, ils faisaient la prière sans refaire leurs ablutions. Donc les ulama ils ont dit ça c'est pour le sommeil où tu dors un petit peu et tu sens ce qui se passe autour de toi si quelque chose se passe. Rabi'an massu farj al-adami bila ha'il li hadith Busra binti Safwan radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man massa dhakarahu falyatawadda. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. Et aussi le fait de toucher ses parties intimes sans bila ha'il, c'est-à-dire sans quelque chose comme un vêtement entre les deux, c'est-à-dire de les toucher directement. Comme dans le hadith de Busra où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui touche son sexe qu'il refasse ses ablutions. Ça c'est dans les Sunan d'Abi Daoud authentifié par Cheikh Al-Albani, et un autre hadith qui dit la même chose qui est dans les Sunan d'Ibn Majah, authentifié aussi par Cheikh Al-Albani. Ça c'est une question, faut pas croire que c'est une question à consensus. Donc à chaque fois je vous dis, selon ma connaissance, s'il y a un consensus ou pas, pour qu'on sache, c'est-à-dire si on voit quelqu'un qui fait l'inverse, on dit pas c'est un innovateur ou il s'est trompé. Si une personne elle touche ses parties intimes et elle fait ses ablutions, c'est beaucoup de lamas, ils disent que ces ablutions elles sont valables et que les ablutions sont simplement préférables, comme par exemple à leur tête. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit ça fait partie des choses préférables. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, un homme il lui a demandé, Al-Rajulu yamassu dhakarahu fi salah, ayatawadda, qala la, innama huwa bad'atun mink. Il lui a demandé, est-ce que quelqu'un qui touche ses parties intimes, son sexe, doit refaire ses ablutions? Il lui a dit non, ce n'est qu'un morceau de toi-même. C'est-à-dire, c'est comme si tu touchais ton bras ou ta jambe, ça. Donc ça, on en comprend que c'est pas obligatoire. Puisque l'homme il lui a bien demandé ayajibu alayya al-wudu, c'est-à-dire si je touche mon sexe est-ce qu'il m'est obligatoire, et il a répondu non. Et dans le hadith il a dit celui qui touche son sexe qu'il fasse ses ablutions. Donc on peut en comprendre quand il a dit non, c'est-à-dire non ce n'est pas obligatoire, et dans l'autre il dit qu'il fasse ses ablutions, c'est-à-dire c'est conseillé, c'est préférable. Et ça aussi ça regroupe entre les afar, parce que si on revient aux compagnons, il y a beaucoup de compagnons qui ordonnaient de retoucher, de faire les ablutions quand on faisait ça. Ça a été rapporté de Saad ibn Abi Waqas, Abdullah ibn Omar. Par exemple, Abdullah ibn Omar, il a fait le rousl. Et tout de suite après, il a fait ses ablutions. Alors qu'on ne fait pas les ablutions après le rousl. On refait le rousl et on prie tout de suite. Et son fils, il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que j'ai touché mon sexe. Et aussi Saad ibn Abi Waqas, il a vu son fils, sous son qamis, il s'est gratté. Il lui a dit, est-ce que tu as touché ton sexe? Il a dit oui. Il lui a dit, refais tes ablutions. Et de l'autre côté, dans le sens inverse, on trouve une parole d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui disait, il n'y a pas de différence pour moi entre toucher mon nez et toucher mon sexe. C'est-à-dire, il voyait que c'était pas obligatoire. Donc là, une parole qui regroupe un peu tout ça, c'est de dire que c'est simplement préférable. Mais l'ahwat, c'est-à-dire le plus sûr, le mieux, sachant que il y a des hadiths clairs, et qu'une grande partie de l'ulama disent que c'est obligatoire, c'est de le refaire. Et de toute façon, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan aklu lahm al-ibil, donc cinquièmement le fait de manger du chameau. Li hadith Jabir ibn Samura anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an atawadda min luhum al-ghanam, qala in shi'ta tawadda wa in shi'ta la tatawadda, qala natawadda min luhum al-ibil, qala na'am tawadda min luhum al-ibil. Parce que dans un hadith, un homme il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je fais mes ablutions quand je mange du mouton? Il lui a dit, si tu veux, tu les fais, si tu veux, tu ne les fais pas. Et il lui a dit, est-ce que je fais mes ablutions si je mange du chameau? Il lui a dit, oui, tu fais tes ablutions si tu manges du chameau. Donc il a bien différencié entre celui-là et celui-là. Celui-là, il l'a laissé à son propre choix, alors que l'autre, il lui a obligé. Ça, ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Sadisan, ar-riddatu an al-islam, li qawlihi ta'ala, wa man yakfur bil-iman, faqad habita amaluhu, wa kullu ma awjaba al-ghusla awjaba al-wudu'a ghayra al-maut. Il dit aussi le fait de sortir de l'islam. Donc quelqu'un qui viendra sortir de l'islam et re-rentrer, il faut qu'il refasse ses ablutions. Même si il avait ses ablutions avant de sortir de l'islam. Puisqu'Allah dit dans le Coran, celui qui mécroit à la foi, ses actions sont annulées. Al-mas'ala as-sabi'a ma yajibu lahu al-wudu. La septième question, c'est quand est-ce qu'il est obligatoire ou pour quelle chose il est obligatoire de faire ses ablutions. ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. Donc il va citer trois choses. أولا الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Donc on a déjà vu pourquoi الصلاة c'est quelque chose de clair. ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. Aussi الطواف, c'est-à-dire le fait de tourner autour de Al-Ka'ba à Mecca, que ce soit un tawaf obligatoire ou un tawaf simplement préférable, parce qu'il est légiféré de faire un tawaf comme ça, même en dehors d'une umra. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait lui-même ses ablutions pour le faire, pour être tawaf, comme ça a été cité dans le Bukhari et dans le Muslim, et puisqu'il a dit, le tawaf est, autour de la Kaaba est une salat. C'est-à-dire, il a comparé le tawaf à la salat, si ce n'est qu'Allah a autorisé d'y parler. C'est-à-dire, il a dit, c'est comme la salat, sauf que on a le droit de parler pendant le tawaf. Donc de là, les ulama, ils ont dit, s'il est comme salat, c'est qu'il a besoin aussi des ablutions. Ce hadith, il est dans Il est authentifié par Sheikh Al-Albani et il est dans le livre d'Ibn Hibban, de l'Hakim aussi, et de l'Bayhaqi. Et aussi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à la femme qui a ses règles de tourner autour de la Kaaba jusqu'à ce qu'elle devienne pure, comme c'est dans le Bukhari et Muslim. Thalifan, Massul Mushafi, Bibasharatihi, Bila Ha'il, Li Qawlihi Ta'ala, La Yamassuhu Illa Al-Mutahharun. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. Et aussi le fait de toucher le mushaf, c'est-à-dire le livre qui porte le Coran, sans quelque chose qui te sépare de lui, c'est-à-dire de le toucher directement, puisqu'Allah dit dans le Coran, ne le touche que les purifiés. Et aussi le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith, il ne touche le Coran que quelqu'un qui est purifié. Comme c'est dans le Muwatta de l'imam Malik notamment, et authentifié par Sheikh Al-Albani. Et il faut savoir que ça, donc c'est une question sur laquelle la plupart des jeunes, ils sont trop laxistes. Alors que, si on revient aux compagnons du prophète, il n'y a pas de divergence entre les compagnons du prophète sur ce sujet. Ça a été rapporté notamment de Omar ibn al-Khattab, de Abdullah ibn Omar, de Aïcha et de Salman. Donc quatre des grands compagnons du prophète qui ont dit qu'il était interdit de toucher le mushaf si t'es pas en état d'ablution. Et sans qu'aucun des compagnons ne les contredise. Donc c'est comme un ijma en vérité, c'est comme un consensus. Al-mas'ala thamina ma yustahabbu lahu al-wudu. La huitième question, c'est les choses pour lesquelles il est préférable de faire ses ablutions. Yustahabbu al-wudu wa yandabu fi al-ahwal al-italiya. Awalan 'inda dhikri Allah ta'ala wa qira'ati al-Qur'an. Donc la première, c'est lors du rappel d'Allah et de la lecture du Coran. Donc différencier entre la lecture du Coran et le fait de toucher le mushaf, c'est pas pareil. C'est-à-dire lire le Coran comme ça par cœur, on n'a pas besoin d'avoir ses ablutions, même si c'est préférable. Par contre, c'est interdit quand on est en état de janaba, conformément au fatwa des sahaba. On ne peut pas lire le Coran quand on est en état de janaba, même par cœur. Par contre, on a le droit de le lire si on n'a pas ses ablutions, sans être en état de janaba. Et on n'a pas le droit de le toucher si on est en état de janaba ou qu'on n'a pas ses ablutions. Donc différencier entre toucher le mushaf et lire le Coran, c'est deux choses différentes. Donc c'est préférable pour la lecture du Coran.
Thaniyan 'inda kulli salah li muwadabatihi sallallahu alayhi wa sallam 'ala dhalik kama fi hadith Anas radiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u 'inda kulli salah.
Aussi auprès de chaque salat, c'est-à-dire même si tu as tes ablutions, c'est une sunna de les refaire pour la prière, comme il a dit Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait. Et ça c'est dans Sahih al-Bukhari.
ثالثا يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب.
Aussi il est préférable à celui qui est en état de janaba de faire ses ablutions quand il veut, quand il a eu un rapport sexuel avec sa femme et qu'il veut en refaire un. Ou alors s'il veut dormir ou s'il veut boire ou manger. C'est-à-dire quand tu es en état de janaba pour faire toutes ces choses-là, il est préférable de le faire en état d'ablution.
لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
Donc dans, comme dans le hadith qui est dans Sahih Muslim où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quand l'un d'entre eux voit un rapport avec sa femme puis il veut refaire qu'il fasse ses ablutions.
ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
Et le hadith de Aïcha qui disait, ça c'est dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en état de janaba et qu'il voulait dormir, il faisait les mêmes ablutions que pour la prière et ensuite il dormait.
وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام.
Et dans une autre version du hadith, elle a dit s'il voulait boire ou manger. Donc c'est notamment quand tu veux manger.
رابعا الوضوء قبل الغسل.
La quatrième, c'est le fait de faire ses ablutions au début du ghusl, c'est-à-dire avant le ghusl de la janaba.
Li hadith Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ightasala min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salah.
Al hadith. Donc comme Aisha l'a décrit quand le ghusl du prophète, elle disait qu'au début il faisait ses ablutions. C'est-à-dire qu'il commençait par laver ses parties intimes, après il faisait les mêmes ablutions pour la salat, après il lavait son corps tout entier.
خامسا عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على الشقق الأيمن.
Comme le prophète il a dit, Al-Bara ibn Azib lui a dit, quand tu vas dans ton lit, fais les ablutions comme tu le fais pour la salat, et ensuite allonge-toi sur ton côté droit. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc on va s'arrêter là, la fois prochaine on fera sur le fait d'essuyer les chaussons et le roussel.
Nas'alullah ta'ala, yarzuqana al-ilma al-nafi'a wal-amal al-salih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.